Je préfère aller à l'église quand il n'y a personne. C'était la réponse de Jeannette quand je l'invitais à nous rejoindre pour la messe le dimanche matin à la maison de retraite Saint-Thomas. Et elle ajoutait presque toujours « Je n'aime pas quand il y a du monde ». Alors bien sûr, il est beau de prier dans le silence et le recueillement d'une église, même si elle est vide, puisque normalement le Christ Jésus lui-même y est présent au Saint-Sacrement, comme le rappelle la petite lampe rouge. Mais la réaction de Jeannette reflète bien la mentalité individualiste de notre époque. Que de fois, pour se justifier de ne pas venir à la messe le dimanche, les gens disent « Je prie Dieu tout seul, je n'ai pas besoin d'aller à l'église » avant de lancer l'argument décisif « Et de toute façon, les pratiquants ne sont pas meilleurs que les autres. » La liturgie de l'Épiphanie, pourtant, ne va pas vraiment dans ce sens. « Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière. » Lève les yeux alentour et regarde, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Et cette promesse est confirmée par le psaume. Tous les rois viendront se prosterner devant lui, tous les pays le serviront. On n'est pas ici dans un geste de piété individuelle, mais bien plutôt dans une dynamique de rassemblement, de grand pèlerinage. Et nous contemplons cette marche des nations païennes vers le Dieu Sauveur. Saint Paul, d'ailleurs, n'est pas en reste quand il affirme que toutes les nations sont associées au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Vous le voyez, de toute évidence, les mages venus d'Orient symbolisent plus qu'eux-mêmes. Ils sont les représentants de l'humanité entière qui cherche Dieu dans l'obscurité, même sans en avoir pleinement conscience. À vrai dire, leur parcours de foi est exemplaire et il peut se décliner en trois étapes. Chercheur, auditeur de la parole et enfin adorateur. N'est-ce pas le chemin que nous sommes tous invités à emprunter? Tout d'abord, les mages sont des chercheurs. Comme Abraham, à l'aube des temps anciens, et peut-être par le même chemin, voici qu'ils se mettent en route, guidés par une étonnante étoile. Ce sont des hommes qui cherchent, des curieux, dont les yeux sont tournés vers le ciel. Leur esprit et leur cœur sont ouverts. À l'image des vrais savants, ils savent qu'ils ne savent pas grand-chose, qu'ils ont encore beaucoup à découvrir, qu'ils doivent se laisser humblement conduire par cette mystérieuse étoile. Comment ne pas penser ici, frères et sœurs, à tous les efforts des hommes pour mieux connaître le monde et ses lois spécifiques à travers les sciences? Récemment, un très puissant télescope nommé James Webb a été lancé dans l'espace. Il devrait permettre, entre autres, de mieux connaître l'origine de l'univers en observant les toutes premières étoiles, celles qui se sont formées juste après le Big Bang, il y a 14 milliards d'années. Cette aspiration à déchiffrer les secrets du cosmos et plus largement toutes les recherches des sciences sont estimables et leur autonomie est légitime. Certes, il peut arriver que les sciences et les techniques se considèrent comme un absolu et s'égarent dans l'illusion de leur toute-puissance. Mais dans la mesure où elles se mettent au service du vrai bien des hommes, ne sont-elles pas un hommage au Dieu créateur? Le pain que nous allons présenter tout à l'heure à l'offertoire et qui va devenir le corps eucharistique du Christ, n'est-il pas, comme nous le disons, le fruit de la terre et du travail des hommes? Chercheurs, mais les mages sont aussi des auditeurs de la parole. Ils se sont laissés guider par une étoile, mais elle ne suffit pas pour les conduire jusqu'à Bethléem. Il leur faut faire étape à Jérusalem. Eux qui ont tourné leur visage vers le ciel, ils ont maintenant besoin d'entrer en relation avec les hommes pour arriver jusqu'au roi des Juifs. Rencontrer Hérode, écouter les grands prêtres, il le faut. Même si eux ne bougeront pas, même si leur capitale, Jérusalem, est bouleversée et privée d'étoiles, il le faut, car le chemin de Dieu passe par les hommes. Même quand ceux-ci ne sont pas à la hauteur, ou remplis d'intentions perverses. Il le faut, car le Sauveur a voulu se lier à son Église, mélangée de bons grains et d'ivraies, composée de saints et de pécheurs, et pourtant médiatrice de salut. Les mages n'ont pas attendu de rencontrer des saints pour relancer leur marche vers Bethléem. Se présenter à un roi qui va bientôt ordonner de faire périr tous les petits-enfants d'Israël, à vue humaine, c'était de la folie. Et pourtant, c'est ce roi-là qui les oriente vers les dépositaires des prophéties. N'est-ce pas justement cette lumière de la parole de Dieu qui les remet sur le droit chemin? Et n'est-ce pas l'écoute de cette divine parole qui remplit leur cœur de joie? L'Évangile nous dit: quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Auditeurs de la parole, chercheurs. Et voici que maintenant, ils arrivent au terme de leur voyage. C'est le moment de l'adoration silencieuse. Après avoir écouté la prophétie, ils adorent celui qui est la parole, le Verbe de Dieu. Ils se prosternent devant lui, reconnaissant sa grandeur unique. Et la promesse du psaume s'accomplit. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Mais ce n'est pas là une dévotion privée ou un acte de piété purement individuel. Pour aller jusqu'à l'enfant, il a fallu que les mages entrent dans la maison. La maison, image de l'Église, et qu'il rencontre Marie, figure de l'Église. Impossible d'aller à Jésus sans passer par les autres, sans passer par Marie. Alors en ce temps de Noël, suivons l'exemple des mages. Devant nos crèches ou à l'Église, allons à Jésus, écoutons sa parole et adorons-le. Puissions-nous avec Marie, tout au long de cette nouvelle année, accueillir un peu plus le Christ en nos cœurs pour en être les témoins. Et que, grâce à nous, beaucoup puissent entendre cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, un Sauveur est né, et toi aussi, tu es aimé de lui.